Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Eh bien, je vous dirai celle d'un homme né pour courir. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Quand il aperçut le bosquet de frênes, il sut qu'il avait atteint son but. Il accéléra une dernière fois. Une ultime impulsion demandée à son corps, lequel répondit aussitôt, grisé par l'habitude de la course et la certitude qu'il allait droit vers la victoire. Les frênes, c'était idéal pour tendre un piège. Un bois élastique et facile à tailler, des branches de toute taille et beaucoup de feuilles. Tout cela permettait à la fois de préparer des armes légères et nerveuses et, par ailleurs, de construire des cachettes parfaites. Il courait depuis une dizaine de jours, de l'aube au crépuscule. Dès qu'il pouvait suivre un ruisseau ou un fossé rempli de boue, il s'y engageait sans hésiter. Il savait que les molosses de ses poursuivants perdaient sa trace dès qu'il passait dans l'eau. Il pensa avec dégoût et mépris à ces animaux stupides. À vrai dire, ces chiens ressemblaient à ce que le monde était devenu, brutal et primaire, dépourvu de finesse et d'intuition. Le paysage autour de lui hésitait, de colline en vallon, entre de vastes étendues de genêts et des massifs de ronces infranchissables. Seuls les sentiers tracés par les animaux permettaient d'avancer. Ce massif de frênes semblait hors du monde. Il dessinait un espace dégagé et lumineux, où l'on se sentait aussi libre et protégé que dans une maison. Il se dépêcha. Il savait qu'il n'avait pas plus de 2 ou 3 heures devant lui avant d'être repéré par un soldat. Au tout début, quand il s'était enfui de la caserne, un escadron de 10 militaires s'était lancé à ses trousses. Il connaissait les règles. Quelques années plus tôt, il était encore du côté des chasseurs. Aussi, son plan se déroula-t-il comme prévu. Au fil des heures et des jours, le groupe de ses poursuivants se désagrégea, un par ici, un par là, un vers l'est, un vers le nord, et... maintenant, il n'avait plus derrière lui un groupe compact et organisé, mais 10 hommes, solitaires et démunis, égarés au milieu de ces espaces qu'il connaissait mal. Ils étaient donc à égalité, ou presque, car eux, ils étaient accompagnés d'un chien, d'un de ces monstres stupides, dont le but aveugle, permanent, consistait à saisir leur proie à la carotide et à ne pas la lâcher. Le plan était simple. Se débarrasser du chien, puis profiter de l'effet de surprise pour tomber sur le soldat, l'assommer et l'attacher. Tout se passerait en 1 minute, peut-être moins, mais pour que ça marche, il fallait préparer le terrain avec minutie. Il n'eut aucune difficulté à se saisir d'un des innombrables lapins qui infestaient le bois. Depuis que le mouvement unanimiste écologiste avait promulgué des lois interdisant de tuer toute espèce animale et végétale, les variétés les mieux armées pour se reproduire aveuglément avaient proliféré d'une façon insensée. Les rongeurs et les ronces, en particulier, étaient en train de tout envahir. Les lapins vivaient dans un tel état d'hébétude qu'ils avaient perdu toute notion de danger. Incapables de faire la différence entre un caillou et un prédateur, on pouvait, d'un geste, en assommer 2 d'un seul coup de bâton. Il trancha le cou de l'animal, répandit son sang sur un tapis de feuilles, au-dessus d'un fossé qu'il avait creusé de ses mains, et au fond duquel il avait planté des pieux de frêne. Puis, lorsque cela fut terminé, il monta dans l'arbre qui surplombait le piège. Il attendit. Il savait qu'il vivait ses dernières heures, mais cela le laissait indifférent. Mieux que ça, la perspective de sa mort prochaine le remplissait de sérénité. Il était sûr de mourir pour quelque chose, et cela le plaçait au-dessus de ces milliards d'hommes et de femmes qui naissaient, grandissaient, mangeaient et mouraient comme des veaux. Il s'était battu. Il s'était enfui. Il avait résisté. Il résistait et il résisterait jusqu'à la fin. Bien sûr, ce combat, cette course, cette fuite devait beaucoup au hasard, mais maintenant, il le savait, toute vie doit beaucoup au hasard. Quand le chien de son poursuivant arriva, museau baissé, mufle bavant, et se jeta dans le trou rempli de pieux comme une guêpe dans un verre d'eau sucrée, il ressentit, dans sa moelle épinière, un frisson d'intense plaisir. Il se laissa glisser de sa branche et tomba droit sur celui qui le traquait. Son pied heurta la tempe de l'homme et l'assomma d'un coup. Ensuite, il l'attacha à un arbre, prit soin de bien lier ses mains. Là encore, les frênes et leur écorce solide, facile à tailler, lui furent précieux. Puis, acheva le chien agonisant d'un coup de poing entre les yeux et attendit que le soldat se réveille. La médaille individuelle du militaire lui apprit qu'il se nommait Jonas. Il était jeune, à peine 20 ans, et son corps semblait taillé pour la lutte, le combat physique, la course. Ses cuisses, que son short de combattant ne cachait pas, révélaient des muscles nerveux et souples, merveilleusement aguerris et entraînés. Il calcula que, si tout se passait bien, il avait 5 heures devant lui avant que le gros de la troupe ne converge vers le bois. Il se donna 3 heures, par sécurité. C'était suffisant. Il traça une encoche sur un frêne exposé au soleil, au ras de l'endroit où la lumière tombait, puis une seconde, un peu plus haut, quand l'ombre arriverait là, il aurait tout gagné ou tout perdu. Il secoua doucement le soldat, le réveilla et le fit boire. Puis il lui sourit et lui dit qu'il n'était pas son ennemi. L'autre le regardait, hagard, terrifié à la pensée qu'on allait le tuer. « Rassure-toi, dit-il, rassure-toi, j'ai besoin de toi. » Et il se mit à chanter. Au début, Jonas ne comprit pas. Il fixa l'homme qu'il avait pris au piège avec une expression stupéfaite, puis, très vite, inquiète, et, enfin, paniqué. Il ne connaissait pas la chanson, mais il savait que ce n'était pas un des cantiques officiels à la gloire de la nature et de l'écologie comme on les enseignait dans toutes les écoles et toutes les casernes de la Terre. La chanson avait quelque chose d'électrique, de sauvage et de violent, quelque chose qui renvoyait aux temps anciens où des dévoyés braillaient des hymnes décadents devant des milliers de spectateurs abrutis par la drogue et l'alcool. Oui, il le devinait, ça ne pouvait pas être autre chose. On lui avait parlé de ces pratiques répugnantes bien des fois, à la maison d'abord, puis lors des journées de formation des jeunes patrouilleurs auxquelles tous les enfants devaient participer, et ensuite, à l'école, pendant la brève année d'enseignement où on lui inculqua des rudiments de lecture et de calcul mental. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owed. Against the wind, I La musique qui montait des lèvres du fuyard était satanique. Oui, c'était le mot qu'il avait entendu dans la bouche de son institutrice. Satanique. Jonas connaissait peu de mots compliqués, mais il n'avait pas oublié celui-là. Il secoua la tête, essaya de trouver une façon de ne pas entendre le chanteur, mais ses mains étaient fermement attachées derrière un arbre qui bloquait son dos, et il lui était presque impossible de bouger. Pendant près de 3 heures, ponctuées de courtes pauses silencieuses pendant lesquelles la chanson s'insinuait plus encore dans son esprit, Jonas n'eut d'autre possibilité que d'entendre les mêmes mots et la même musique. Les mots, prononcés dans une langue inconnue mais dont les phonèmes lui devinrent peu à peu familiers, la musique scandée sur un rythme sec et soutenu. Après avoir longtemps lutté, Jonas finit par lâcher prise et s'abandonna à son supplice. Il ne savait pas ce que le fuyard recherchait, mais, après tout, plutôt que d'être torturé ou tué, mieux valait rester là et écouter chanter, sans résistance, l'illuminer. Bien qu'une voix mystérieuse lui murmura qu'un piège, pire que celui dans lequel il venait de tomber, se profilait devant lui, il choisit d'ignorer cette menace et, à bout de force, il s'endormit. L'autre, le fuyard, celui qu'il poursuivit depuis plusieurs jours, continua de chanter, comme si de rien n'était. Le couplet de la chanson, lancinant, obsédant, s'instillait peu à peu dans le cerveau du soldat attaché au frêne. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Jonas choisit d'abandonner toute résistance et de glisser dans le sommeil. Mais l'homme en fuite colla sa bouche contre son oreille pour très doucement, mais sans diminuer l'intensité du tempo, sans altérer l'énergie propre à la chanson, continuer la tâche qu'il s'était fixée. Nul ne savait qui avait écrit cette chanson, ni pourquoi. On savait juste qu'elle venait de temps lointains et barbares, de l'époque où l'on brûlait toutes les ressources naturelles de la terre et qui, si le mouvement écologique n'avait pas pris le pouvoir, se serait soldé par la disparition pure et simple de la planète. Cette chanson, et quelques autres comme celle-là, représentaient tout ce qui, des temps anciens, devait être honni et aboli. Et ceux qui la chantaient, ceux qui essayaient de l'enseigner et de la divulguer, étaient condamnés à mort. Le fuyard l'avait apprise dans des conditions proches de celles où Jonas se trouvait aujourd'hui. Il s'était fait capturer par une bande de rebelles rock pendant qu'il faisait une ronde de surveillance aux alentours d'un immense bidonville. Puis on l'avait attaché et on lui avait chanté des chansons interdites. Ensuite, il avait été relâché, sans qu'il lui soit fait le moindre mal. Il s'était cru sauvé et n'avait pu comprendre l'attitude et les motivations de ses ravisseurs. Mais, peu à peu, ses chansons, auquel il ne comprenait pas un traître mot, envahir son cœur et son esprit, quand, dans le silence de son cerveau, il se les répétait, il se sentait libre et rempli d'une énergie nouvelle. Un jour, il décida de franchir le pas et rejoignit la rébellion rock. Il fut vite repris, mais il put s'échapper une seconde fois. Il savait qu'il n'y en aurait pas de troisième, que, maintenant, c'était la fin de la course, de sa course. Il fallait qu'il transmette son message et son héritage. Jonas était le coffre dans lequel il déposait son trésor. L'ombre atteignit la seconde marque, sur le frêne, il cessa de chanter et libéra le jeune soldat. Ce dernier hésita un moment, avant de se relever. Quel but poursuivait donc celui qu'il avait capturé? Il n'y comprenait rien. D'autant que l'autre, sans ciller, lui rendit son sifflet, et Jonas put ainsi signaler sa position au militaire avec qui il était parti en chasse. Bientôt, ils furent tous rassemblés dans le bois. Il y eut des jurons et des coups s'abattir sur le fuyard, puis on félicita Jonas et tout le monde prit le chemin du retour. Le prisonnier fut garrotté 10 jours plus tard. Les nouvelles lois prévoyaient que ceux qui répandraient la subversion par les chansons seraient exécutés ainsi, la gorge serrée jusqu'à l'étouffement. Jonas, à qui revenait le privilège de donner le coup fatal aux rebelles, refusa de le faire. On trouva cela bizarre, mais sa hiérarchie n'insista pas. Toutefois, un rapport officiel, quoique secret, fut envoyé à l'état-major. Depuis son retour, le soldat Jonas présentait des troubles du comportement. Il était devenu solitaire, ombrageux, et ne participait plus, comme autrefois, au concours de lutte grecque que les soldats organisaient entre eux. La chanson, peu à peu, prenait possession de lui. Au début, il en fut effrayé, puis il y prit du plaisir, de plus en plus de plaisir. Il finit par quitter la caserne, en cachette, pour aller chanter seul dans les fourrés avoisinants. La musique et les mots, qu'il ne comprenait pas, leur violence contrôlée le transportait. Son cœur battait plus vite, son sang se réchauffait. Il découvrait avec délectation le parfum de la liberté. Un jour, Il trancha net la chaîne qui le liait au monde des maîtres. Il décida de rejoindre celles et ceux qui vivaient dans les décombres des villes détruites, au cœur de vastes cités qui avaient sombré dans l'océan des ronces et des taillis. Satisfaction lui servirait de viatique, de passeport et d'arme. Son tour était venu de répandre les germes de la rébellion. Avant de s'enfuir, il se planta au milieu de la cour de la caserne et chanta, puis il cracha sur le sol, prit son élan et s'envola. C'était Né pour courir, une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Retrouvez-la en podcast sur radiogalaxie31.com et en rediffusion sur Radio Galaxie. Le mois prochain, retrouvons-nous pour une autre histoire.